Tout se passe bien avec la Russie, les mots de Donald Trump. Le président américain estime qu'il y a une grande chance de mettre fin à la guerre en Ukraine. Les deux présidents vont s'appeler au téléphone la nuit prochaine. L'actualité nationale est cette fin de non-recevoir de François Bayrou. Le Premier ministre affirme qu'il n'y aura pas de retour à 62 ans pour le départ à la retraite. Une déclaration qui met fin au conclave sur la réforme, selon la gauche. Et pour le Rassemblement national, sa place à Matignon est même menacée. Sur le territoire, verdict attendu dans la journée aux assises. Un homme d'une cinquantaine d'années est jugé depuis hier pour un meurtre en marge d'un mariage à Canala. Quel rôle les agricultures familiales peuvent-elles jouer pour assurer la résilience des petits pays et territoires insulaires? Des scientifiques de la région présentent en ce moment le résultat de 4 ans de travaux sur cette question. En tennis, deux Français dans le top 20 du classement mondial. L'ATP est toujours dominé par Jannik Sinner, mais Arthur Fils est désormais 18e et Hugo Humbert 20e. La météo sur le territoire, des nuages se développent sur la chaîne et donnent des averses qui débordent en particulier sur le nord-ouest et la pointe nord. Sur les Loyautés, le nord-est et la pointe sud ainsi qu'à l'île des Pins, le ciel est nuageux avec des averses éparses. Ailleurs, le temps reste sec. Quant aux températures maximales, elles sont stables, toujours comprises entre 28 et 31 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité internationale.
Oui, et la guerre en Ukraine qui pourrait donc connaître un nouveau tournant. Dans quelques heures, Donald Trump et Vladimir Poutine s'appelleront au téléphone directement pour évoquer la possibilité d'une trêve. C'est le président américain qui a lui-même confirmé la tenue de cet appel.
Tout se passe bien avec la Russie. On pourra peut-être annoncer quelque chose mardi. Je parlerai avec le président Poutine demain. On a beaucoup travaillé ce week-end. On verra si on peut arrêter cette guerre. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on a une grande chance que oui.
Quelles concessions fera Poutine pour conclure l'affaire?
On parlera de territoire, beaucoup de territoire. Très différent depuis l'avant-guerre. On parlera de centrales d'énergie, c'est une grande question. Beaucoup de sujets ont été abordés par les deux parties. On parle déjà de diviser certains avoirs et ils travaillent sur cela.
Un entretien qui semble donc déterminant après les discussions engagées avec Kiev puis Moscou par les États-Unis. Antoine Biervaux.
Pour la deuxième fois depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump va joindre Vladimir Poutine par téléphone dès demain. Le président américain devrait tenter de le convaincre d'accepter l'accord de trêve de 30 jours scellé avec l'Ukraine la semaine dernière. Et selon Antoine Arjakovski, historien spécialiste des relations entre l'Ukraine et la Russie, la pression est bel et bien sur les épaules de Donald Trump.
Soit Donald Trump réagit fermement en exigeant un cessez-le-feu demain et sans condition. Et là, vis-à-vis des Russes, il a des leviers, comme par exemple de réarmer l'Ukraine, de faire des vraies sanctions à l'égard des banques russes. Soit il n'en est pas capable. Et là, s'il cède là-dessus, il perd sa capacité à faire la paix et avoir la confiance des Ukrainiens et des Européens. Donc, de fait, cet appel téléphonique est important.
Car une semaine après la proposition de trêve des Américains, Vladimir Poutine n'a pour l'instant pas semblé enclin à l'accepter. Selon Donald Trump, beaucoup de choses ont cependant déjà été discutées entre la Russie et l'Ukraine, notamment sur plusieurs partages de ressources. Mais le Kremlin assure toujours de son côté qu'aucune trêve ne sera signée si ses intérêts ne sont pas pris en compte.
Et la Russie qui pourrait, dans ces discussions, notamment chercher à obtenir des garanties que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. En métropole, je le disais, la retraite à 62 ans, eh bien c'est non. François Bayrou est catégorique, vous avez pu l'entendre hier sur notre antenne. C'est un retour sur l'âge de départ qui n'est pas réaliste selon lui. Le Premier ministre prend donc le risque de se faire censurer, d'autant que les syndicats menacent déjà de quitter le conclave. Plutôt sur Europe 1, la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, s'est notamment positionnée sur la ligne de son Premier ministre, Arthur Delaborde, pour Europe 1.
Oui, confirmer les déclarations de François Bayrou sans mettre en péril l'avenir du conclave sur les retraites, exercice délicat pour Amélie de Montchalin qui assure le service après-vente tout en tentant de calmer la colère des syndicats.
La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste c'est pas réaliste. Maintenant, ce qu'il faut dans notre pays, c'est que nous arrivions collectivement à nous dire que la démocratie sociale est un gain.
Les partenaires sociaux ont toutes les cartes, insiste la ministre des Comptes Publics, alors que certains syndicats menacent de quitter la table des négociations. Pour autant, l'exécutif fixe des lignes rouges de plus en plus restrictives, sans doute pour répondre aux critiques émises au sein du bloc central contre ce conclave des retraites. La Macronie espère maintenant éviter des mesures de rétorsion de la part des socialistes qui s'estiment trahis. À ce stade, le PS n'a pas prévu de déposer de motion pression pour tenter de faire tomber le gouvernement. Lui qui avait négocié le conclave avec François Bayrou en échange d'une non-censure sur le budget.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Éric Lombard, le ministre de l'économie, rappelle quant à lui que c'est aux partenaires sociaux de décider. Syndicats et patronats se réunissent chaque jeudi au moins jusqu'à la fin du mois de mai pour trouver ce nouveau compromis sur la réforme des retraites. L'actualité politique toujours est Jean-Luc Mélenchon qui sort de ses gonds lors d'un entretien. Il était interrogé sur les affiches diffusées par la France Insoumise représentant Cyril Hanouna en reprenant les codes de l'extrême droite antisémite des années 30 et 40. Des visuels dénoncés, vous le savez, par de nombreux responsables politiques mais aussi par des associations. Eh bien, le leader insoumis a refusé de répondre à la question du journaliste. Il s'en est même pris très violemment à ce journaliste de France 3, Francis Letellier. Écoutez.
Pourquoi vous me posez cette question ? De quel droit ? De quel droit ? Qui vous êtes ?
Parce que c'est vous.
Vous
qui...
m'accusez ?
Parce qu'elle est...
Est-ce que vous m'accusez ?
Pas du tout.
Alors taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre
nous. Il fallait
nous.
Pas publier ce visuel.
Alors attendez.
C'est pas, c'est une
donc
question.
Maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de Monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée ? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo ?
Et ça n'est pas d'antisémitisme.
Mais pourquoi ça serait de l'antisémitisme ? Ça suffit. Ça suffit maintenant.
Et cet emportement de Jean-Luc Mélenchon dérange désormais à gauche Alexis de la Fontaine.
Ce dérapage remet une pièce dans la machine, reconnaît un membre de la France Insoumise, alors que le parti de Jean-Luc Mélenchon est au cœur d'une polémique sur fond d'antisémitisme. En interne, un insoumis de premier plan qualifie ce visuel de dégueulasse. Le responsable est soit un connard inculte, soit une ordure antisémite, confie cet élu à l'Opinion. Un seul député insoumis ose se rebeller publiquement, c'est Émeric Caron. Nous sommes tous impactés à nouveau par ces communications catastrophiques, met en garde l'ancien journaliste. Pour Raquel Garrido, l'ex-insoumise, il n'y a pas de place pour le doute.
Quand on a un minimum de culture politique, on sait que cette image-là, elle est directement tirée de l'iconographie antisémite des années 30. On le sait, c'est le juif sus, le juif éternel, ce sont des images qui sont connues.
L'ensemble de la gauche s'insurge contre Jean-Luc Mélenchon. Une saloperie antisémite renouvelée chaque semaine, ça devient une ligne politique, assure la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Infamant et ignoble, répond de son côté le patron des communistes Fabien Roussel, lui aussi attaqué par la France insoumise.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Dans le reste de l'actualité en ce mardi matin, l'Algérie rejette catégoriquement la première liste de ressortissants algériens expulsables de France, car jugée trop dangereux, une liste qui a été transmise par Bruno Retailleau. Une soixantaine de noms avaient été listés par le ministre de l'Intérieur. C'est donc un nouveau revers pour la France, Jacques Serret.
Oui, le communiqué du ministère des Affaires étrangères d'Algérie tient sur une page et c'est un non catégorique. L'Algérie, je cite, réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage discriminatoire. Refus, je cite, sur la forme et sur le fond, précise ce document officiel. Alger explique n'être animé que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants et considère que Paris ne peut décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement, un canal qui, rappelons-le, ne fonctionne pas avec un taux d'exécution d'OQTF pour les ressortissants algériens de seulement 7%. Si cette réponse ne pourra donc pas rester sans conséquence, si l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants dangereux, nous engagerons une riposte graduée, expliquée il y a deux jours Bruno Retailleau, et au bout de la riposte, il y aura la remise en cause des accords de 1968, annonçait le ministre de l'Intérieur qui entend bien tenir parole, allant jusqu'à menacer de démissionner en cas d'empêchement.
Et rappelons que l'accord de 1968 donne un statut particulier aux Algériens en France en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Et enfin, le collège de Conflans-Sainte-Honorine porte désormais le nom de collège Samuel Paty. C'est là qu'enseignait ce professeur qui a été décapité par un terroriste islamiste en octobre 2020. L'inauguration a eu lieu vendredi et c'était donc le premier retour en classe pour les élèves depuis la cérémonie la nuit dernière. Écoutez.
C'est normal, hein. Il y a un prof qui est mort et je crois, oui, il fallait le faire. En l'honneur de Samuel Paty qui s'est assassiné par un terroriste islamiste. Hein. C'est important pour moi, je trouve.
Par exemple, les sixièmes, ils sont arrivés cette année, ils sont peut-être pas forcément au courant. Et qu'aussi, ça part des réseaux sociaux aussi, de mettre un peu une prévention, quoi.
Une plaque au nom de Samuel Paty a été dévoilée également à l'intérieur de l'établissement. Un symbole de la promesse que ni l'oubli, ni la peur, ni la violence ne l'emporteront, dit la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, tout d'abord, elle concerne l'actualité nationale. On en parlait il y a quelques instants. 86% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que Bruno Retailleau a raison de menacer de démissionner si la France renonce à engager un bras de fer avec l'Algérie. Ils sont donc 14% à penser qu'il a tort. Voici maintenant notre question du jour. Selon vous, la présidente de la province Sud a-t-elle raison de porter plainte après la nouvelle provocation du groupe Initiative Bakou qui diffuse un clip incitant à la violence en Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle a tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et j'ajoute qu'on va reparler de ce clip qui a été publié sur le groupe Initiative Bakou tout à l'heure dans le billet d'humeur de la rédaction. Ce sera aux alentours de 7h. En attendant, il est 6h passé de 41 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en Nouvelle-Calédonie, notamment l'actualité judiciaire, puisque c'est la suite et la fin aujourd'hui d'un procès aux assises de la Nouvelle-Calédonie, un procès pour meurtre.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Sima Quincaillerie, c'est le mois du jardin. Le taille est 18 volts LXT Makita longueur 52 cm et vendu sans batterie 18 900 francs. Du 1er au 31 mars, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur sima.nc, à Nouméa, carrefour du 4e kilomètre et à Koné, lotissement Katawiti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrez par le showroom Mazda.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité judiciaire et le verdict est attendu aujourd'hui pour le meurtre jugé depuis hier aux assises de la Nouvelle-Calédonie. Un drame sur fond d'alcool en 2022 lors d'un mariage à Canala. Un homme a poignardé à mort l'un des invités après avoir été agacé par son comportement, Léana Colombo.
La victime présente au mariage avec son frère perturbait les festivités en se montrant agressif avec les invités. Lorsque l'auteur des faits lui a asséné deux coups de couteau à l'abdomen, rapidement transporté au dispensaire, l'homme décédera plus tard des suite de ses blessures. Lors du procès qui s'est ouvert hier, l'accusé a exprimé ses regrets face au juré. Il a demandé pardon à la famille du défunt. « Je suis quelqu'un qui boit et parfois je perds la tête quand je suis alcoolisé. Je regrette beaucoup », a-t-il notamment déclaré. Plusieurs témoignages devraient encore avoir lieu aujourd'hui, dont certains par visioconférence.
L'actualité institutionnelle et le transport aérien à l'ordre du jour de la commission plénière du Congrès qui se réunit ce matin boulevard Vauban. Les représentants d'Air Calédonie International et ceux de l'Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie viendront présenter le projet d'acquisition de deux nouveaux avions. Ce sont ensuite les représentants des syndicats d'Air Calin qui seront auditionnés à leur demande par les élus, ainsi que les représentants du syndicat des agences de voyage. Les séances des commissions plénières se déroulent à huis clos. Dans l'actualité politique, les Républicains calédoniens poursuivent leur réunion d'information après le début des discussions sur l'avenir institutionnel. Ils tiennent une réunion publique ce soir à partir de 18h30 à la salle des communautés du Vallon d'Or.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h45.
L'agriculture familiale au cœur d'un projet de recherche porté par un réseau d'équipes scientifiques. L'Université de la Nouvelle-Calédonie accueille aujourd'hui et demain une conférence internationale autour du projet FALA, le Family Farming Lifestyle and Health. Près d'une centaine de chercheurs sont groupés pour assister à la présentation du projet débuté il y a 4 ans, Léana.
En 2019, l'Université de la Nouvelle-Calédonie obtenait 150 millions de francs de l'UE. L'objectif, travailler avec ses partenaires du Pacifique sur le rôle des agricultures familiales face aux changements globaux, l'évolution des modes de vie et les impacts sur la santé dans les petits pays et territoires. 95 chercheurs ont été impliqués dans ce projet. Ils ont basé leurs recherches sur 4 terrains d'étude, la Nouvelle-Calédonie, les îles Salomon, le Vanuatu et Fidji. Hier soir, les équipes internationales se sont retrouvées à l'UNC pour préparer leur conférence finale. Deux jours de restitution et d'échange qui débutent ce matin à 8h30. Olivier Galli est enseignant-chercheur à l'UNC. Il a, avec son collègue Jean-Marie Fautzing, coordonné le projet FALA depuis sa création.
On a essayé de permettre aux collègues de développer au mieux leur mobilité entre le Pacifique et l'Europe ou de l'Europe vers le Pacifique. Ensuite, en parallèle de ces mobilités, on a organisé 10 événements scientifiques, dont le dernier a lieu à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour 3 jours de conférence. Et à cela s'est adossé de la formation des doctorants, de la recherche sur des terrains d'application, Vanuatu, Fidji, Nouvelle-Calédonie et Îles Salomon principalement. On a plus de 40 communicants qui vont prendre la parole sur des activités centrées soit sur l'agriculture familiale, soit sur le mode de vie, la santé, le transfert de connaissances, mais également des travaux qui sont transverses, qui touchent à la fois l'alimentation et bien sûr la production, l'agriculture familiale ou la pêche à petite échelle. Et la richesse de ce projet, c'est son interdisciplinarité. On est tous d'horizons totalement différents, mais sur des objets de recherche partagés et communs, que sont l'agriculture familiale, le mode de vie et la santé.
L'un des exemples de cette interdisciplinarité, c'est le travail de Corinne Caillot et ses équipes de l'Université de Sydney. Elle y est enseignante et a dirigé des travaux de recherche axés sur les modes de vie et la santé des jeunes adolescents. Pendant plusieurs années, avec l'aide de jeunes étudiants, elle a étudié les comportements et perspectives de jeunes Calédoniens et Vanuatais.
En fait, c'est l'idée de travailler collaborativement avec les jeunes et de vraiment permettre à leur voix d'être entendue dans ces problématiques d'environnement alimentaire, de nutrition, d'activité physique. Ils ont des idées, par exemple, sur la place des outils digitaux. Ils sont conscients que par moments, ils les utilisent trop, donc ils partagent ça. Ils ont aussi des idées sur l'environnement. Par exemple, il y a des idées qui sont exprimées autour de l'utilisation des territoires pour utiliser à l'agronomie ou à la production alimentaire au lieu de mettre des bâtiments, par exemple. Donc, évidemment, leurs idées, il faut les travailler davantage. Mais ce qu'on a trouvé très, très intéressant, c'est qu'ils sont à la fois capables de comprendre leurs responsabilités, mais aussi de comprendre comment les systèmes autour d'eux posent des barrières.
Les travaux comme ceux de l'Université de Sydney seront tous présentés au cours de ces deux jours de rencontres. Notez qu'une conférence publique se tiendra demain à 18h dans l'amphithéâtre 400 de l'UNC.
Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, une délégation des présidents du Conseil économique, social, environnemental et régional de France et des Outre-mer est actuellement en Nouvelle-Calédonie où elle a depuis hier des entretiens protocolaires. Nous recevrons tout à l'heure son président, Dominique Vienne. Il sera notre invité du matin à 7h30 pour parler de cette visite en Nouvelle-Calédonie. Et puis la semaine de la langue française et de la francophonie s'est ouverte vendredi dernier. Comme chaque année, de nombreux événements sont organisés à cette occasion. Et pour en parler, nous recevrons dans notre magazine citoyen ce midi Alcide Ponga, le président du gouvernement, en charge notamment de la francophonie, Valérie Meunier, la présidente du CREPAC, Daniel Mirou, le président de l'Alliance Champlain, ainsi que Julien Barret, poète linguiste, qui est l'invité de cette semaine de la langue française et de la francophonie. Nous accueillerons également dans notre studio Ratwavi Boquet, qui est élève du CREPAC d'origine thaïlandaise et qui suit des cours de langue française dans la perspective de sa naturalisation. Rendez-vous donc ce midi dans notre magazine Citoyen. En attendant, il est 6h49, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actualité sportive. Alors très peu d'actualité sportive aujourd'hui, mais quelques polémiques en football notamment.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Votre enfant veut payer comme un grand ? Optez pour le Money Walkie et apprenez-lui à gérer son argent de poche sans stress. Un petit porte-monnaie connecté à une application pratique et sécurisée que vous personnalisez selon ses envies et qui lui permet de réaliser ses premiers paiements sans contact. Payer avec un perroquet, un bubble tea ou une planche de surf, c'est possible à partir de 7 ans. Rendez-vous en agence ou sur notre site bnc.nc.
Banque des Nouvelles-Calédonie, siège social 10 avenue du Maréchal Foch, RCS Nouméa 74 B 047 688. Coût de connexion selon votre opérateur.
Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Découvrez le système GE, l'un des meilleurs outils associatifs économico-sociaux reconnus en Nouvelle-Calédonie depuis 2017. Nous avons eu l'honneur d'accompagner plus de 1500 demandeurs d'emploi locaux dans leur parcours vers l'obtention d'un contrat de travail grâce à notre système GE. De plus, 150 entreprises locales ont fait le choix d'utiliser cet outil innovant pour dynamiser leurs activités. Si vous êtes gérant d'entreprise et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au 746 726. Pour les demandeurs d'emploi, nous vous invitons à composer le 30 77 27. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre bureau situé à Koné.
Radio Rythme Bleu. Let's go.
RRB.
Radio Rythme Bleu.
Le hit.
Salut, c'est Marion. Je vous donne deux rendez-vous chaque week-end, le hit Pacifique et le hit International. Alors, pour connaître les prochains classements, samedi et dimanche, branchez-vous sur RRB.
Écoutez le hit RRB International le samedi à 18h30 sur Radio Rythme Bleu.
Samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h, venez découvrir comment rire et être écolo. Un texte de Rémi DeVos, écrit pour le théâtre, sur les bassines d'eau. Des jeunes investis prêts à en découdre pour toutes les bonnes raisons du monde. Ne ratez pas La Guerre de l'eau, le samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc. Rendez-vous au Théâtre de Lille.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et le mardi est généralement une journée très calme sur la planète sport et celui-ci ne déroge pas à la règle. On retiendra tout de même que la mère d'Adrien Rabiot va déposer plainte après la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Marseille, qui a vu la victoire, je le rappelle, de Paris 3 buts à 1 pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. L'ancien Parisien, aujourd'hui Marseillais, était la cible de chants et de banderoles insultant sa famille et notamment sa mère en raison du changement de club. Injures et chants homophobes notamment. Le club de la capitale et la Fédération française de football condamnent des propos indignes. Adrien Rabiot s'est lui exprimé sur Instagram. Insulter une mère et un père décédé, tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Fin de citation. En football toujours, et ça ressemble aussi à une petite polémique lors du match entre Angers et Monaco samedi. Il s'agit en fait d'un point de règlement. À la 13e minute de jeu, un joueur est tombé à terre, visiblement blessé. Le match a donc été interrompu, mais certains estiment qu'il s'agissait en fait d'une technique des deux clubs pour créer un arrêt de jeu et permettre ainsi aux joueurs musulmans qui respectent le ramadan de rompre le jeûne, Cyril de la Morinerie.
Oui, selon le président d'Angers, joint par Europe 1, qui était présent au match. Alors, il me précise que le joueur en question était véritablement blessé lorsque c'est arrivé à la 13e minute. En revanche, il y aurait eu donc entente entre ces deux clubs pour permettre à ces joueurs de s'arrêter quelques minutes. Dans le calme, ils ont pu s'hydrater, confirme le patron du club angevin, Saïd Chaban.
Les deux clubs, donc les deux team managers se sont mis d'accord pour le bien-être des joueurs. Et la question a été posée aux délégués et à l'arbitre qui ont donné leur accord. Et puis... les choses sont faites d'une manière intelligente. Donc je ne vois pas pourquoi la polémique. On est dans un pays où le bien vivre ensemble est important. Voilà, ça a duré une ou deux minutes et le match a repris tranquillement.
Une version en partie contredite par le président de la commission arbitrale de la Fédération. D'après Eric Borghini, l'arbitre a refusé d'interrompre la rencontre pour des raisons religieuses. En réalité, Willy Delajoie a stoppé le match après la blessure d'un joueur, le capitaine d'Angers. Et lors de cette pause réglementaire, les footballeurs de confession musulmane en ont profité pour se désaltérer, affirme Eric Borghini.
Pas du tout par une décision volontaire de l'arbitre d'arrêter le jeu pour permettre aux joueurs musulmans pratiquants des deux équipes de rompre le jeûne, qu'il a arrêté le jeu. mais c'est bien par application des lois du jeu que nous appliquons en France.
Car stopper un match pour des raisons religieuses est totalement interdit par les règlements de la fédération au nom du respect de la laïcité. Et c'est tout l'inverse en Angleterre ou en Allemagne ou encore en Ligue des Champions, puisque Lille Dortmund, la semaine dernière, a été interrompu au moment de la rupture du jeûne.
Cyril Delamorinerie, chef du service des sports d'Europe. Et puis enfin, on signalera également en tennis qu'il y a désormais deux Français dans le top 20 mondial. Le nouveau classement ATP a été publié, comme tous les lundis. Jannik Sinner est toujours en tête devant Alexander Zverev. Novak Djokovic, en hausse de deux places, réintègre lui le top 5. Et puis chez les Français, Arthur Fils atteint le meilleur classement de sa carrière à la 18e place. Hugo Humbert, 20e, recule d'un rang. Giovanni Empeci-Perica retrouve la 29e position. Quant à Alexandre Muller, il est 41e. Et enfin, Quentin Alice décroche le meilleur classement de sa carrière lui aussi. Il est désormais au 57e rang mondial.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et pour terminer ce journal, mon cher Thierry, on va faire un point sur la météo et c'est un temps assez mitigé pour aujourd'hui. Hein.
Oui, nous sommes en vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages. Ce sera sur le nord-ouest de Bourg-Yacoumac pour des averses orageuses débordant localement de la chaîne jusqu'en première partie de nuit, ainsi que sur Poum et Bélep. Ce matin, sur l'île des Pins et le nord-est, des nuages bas s'accompagneront de quelques averses. Ailleurs, bien que parfois voilées, le soleil sera bien présent. Sur l'ouest, le vent, lui, sera faible au début, puis des brises de sud-sud-est s'établiront entre 5 et 10 nœuds. Sur les autres régions, il sera orienté est autour des 5 nœuds, localement voisins des 10 nœuds sur OVA, la pointe nord et Bélep. Cet après-midi, des nuages se développeront sur la chaîne et donneront des averses qui déborderont en particulier sur le nord-ouest et la pointe nord. Sur le nord, ces averses pourront être localement orageuses. Alors sur les loyautés, le nord-est, la pointe sud et l'île des Pins, le ciel sera nuageux avec des averses éparses. Ailleurs, le temps sera sec. Sur la façade ouest, le vent, lui, autour des 10 nœuds cet après-midi, orienté sud-est. Ailleurs, il sera orienté est, compris entre 5 et 10 nœuds, localement 10 nœuds sur la pointe nord. Les températures maximales sont stables, toujours entre 28 et 31 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.